Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Si vous avez raté la première partie, la première heure de 9h à 10h, n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast. Ça cartonne également les grandes gueules du sport en podcast. On a parlé du 15 de France de rugby, également de Formule 1 autour d'Esteban Ocon et du Rififi chez Alpine. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter cette première heure, d'autant qu'il y a une vanne qui n'est absolument pas lourde et vous allez vous régaler. Exactement. Toujours avec Marion Bartoli, David Douillet, Stephen Brun, Simon Dutin. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour d'Hervé Renard, entraîner l'équipe de France féminine de football. Est-ce la chance de sa vie? 10h30, un homme en colère, Pierre Amiche, adore le Robin des Bois des temps modernes, Gianni Infantino, réélu à la tête de la FIFA cette semaine. 11h, le bras de fer des GG autour des Jeux Olympiques. Nous avons célébré cette semaine le J-500. RMC a lancé à cette occasion un grand sondage et sachez que 45% des Français ne rêvent pas des Jeux Olympiques 2024. Il y aura une team, c'est choquant. Une team, c'est pas choquant. Alain Bernard, superstar, champion olympique, sera notre invité exceptionnel à partir de 11h. Et puis, ne manquez pas cette nouvelle séquence. Le guet-apens pour les grandes gueules du sport, le fameux débat caché. Je fais un tour de table. D'après vous, c'est quoi le débat caché ce matin, Simon Dutin?
Tu nous prends à froid là comme ça, donc je préfère vraiment être surpris par tes débats, parce qu'à chaque fois on trouve, sinon. Et
tu penses que tu vas trouver?
Non.
Si tu trouves, je t'offre une bagnole.
Une bagnole?
Oui, parce que ça m'évitera d'aller chercher quand on va au golf tous les deux.
Ah d'accord. Bon, j'essaierai de te mettre des raclés moins fortes. Non, je sais pas du cyclisme. Il y a pas de cyclisme. Un truc sur le
Milan-San Remo,
sur la bicyclette Milan-San Remo.
Ah, ouais. Le premier des grands monuments de la saison.
Non, rien à voir.
Ouais. Ah, c'est possible, c'est possible. Peut-être. Va-t-il gagner une bagnole? On ne sait pas. Stéphane Brun.
Je sais pas, un truc sur Laurent Rossi.
Et l'explication de sa justification?
Ouais. Pourquoi pas?
Pas bête. David Douillet.
J'ai appris que les pilotes de F1 étaient privés de vélo pour leur reconnaissance de piste. Alors j'aimerais savoir pourquoi, c'est peut-être ça.
Ah, c'est peut-être ça aussi, c'est vrai. Un gros débat à venir. Ce serait surprenant, ça peut être ça. Marion Bartoli, une idée?
Messi va-t-il re-signer au PSG?
Ah, le gros dossier, Lionel Messi. Allons-nous en parler dans cette émission?
C'est vrai qu'une émission sans PSG, c'est pas une émission.
Ah oui, sans chèvre.
On a fait Christophe Galtier dans le zapping.
Ah oui.
On en a fait une minute quand même, une grosse minute. Ah, c'est peut-être le PSG, on verra ça en tout cas dans une quarantaine de minutes. Mais pour débuter cette nouvelle heure, Pierre Dac a dit un jour, la chance, c'est une question de veine.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le but de Léo Messi, son 7e but en Coupe du Monde, et il la débute parfaitement. Sa 5e Coupe du Monde, sa dernière Coupe du Monde.
Messi, take your phone, you can make a picture with him, hein, if you want.
C'était la première énorme sensation de cette Coupe du Monde 2022.
We always consider all our opponents on the same way. We respect all of them.
Magnifique. Vous faites du sport?
Aujourd'hui, c'est pas de circonstance et je vous avoue sincèrement que j'y pense pas.
Oh, mais qu'il est beau!
L'équipe de France n'a pas besoin de moi pour recevoir des conseils pour savoir comment évolue le Maroc.
I'm sexy and I know it.
C'est vrai qu'il est beau, Hervé Renard. À la fin, il n'en restera qu'un. Et Hervé Renard est le grand favori pour succéder à Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine de football. Les membres de la commission de travail du COMEX ont donc porté leur choix sur le sélectionneur de l'Arabie Saoudite. C'est donc une question d'heure, voire de jour. La Fédé française est toujours dans l'attente d'une décision de la Fédé saoudienne. Hervé Renard est donc sur le point de rentrer en France 8 ans après être parti. La musique qui fout les jetons est cette question. Serait-ce la chance de sa vie? Oui ou non? Stephen Brun?
Non.
David Douillet?
Oui.
Marion Bartoli?
Non.
Simon Dutin?
Non, non.
Il est encore tout seul, mais il n'a besoin de personne. C'est David Douillet. Ne t'inquiète pas, mon cher David, tu vas en faire de la pâtée. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut les grandes gueules.
Bonjour Arthur.
Salut Arthur.
Hervé Renard, c'est l'homme des exploits.
Oui, un faiseur de miracles qui a fait ses preuves aux quatre coins de la planète. D'abord, en Zambie, surnommé le sorcier blanc, l'entraîneur français a bâti, façonné cette sélection en 2012. À la surprise générale, elle soulève la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire grâce à un succès en finale contre la Côte d'Ivoire. Derrière, le technicien fait son retour en France à Sochaux. Bilan, le club est relégué en Ligue 2. Autre aventure peu concluante à Lille. 6 mois après son arrivée, les dirigeants nordistes mettent fin à ses fonctions. L'équipe ne compte que 2 victoires. Elle est aussi la 2e plus mauvaise attaque du championnat. Dernier pari fou de l'entraîneur de 54 ans, l'Arabie Saoudite. Cet hiver, Renard et ses hommes s'imposent contre l'Argentine en phase de poule. L'un des plus beaux exploits de l'histoire de la Coupe du Monde.
Merci beaucoup Arthur Perrault. Est-ce la chance de sa vie? Une question un petit peu provoque qui peut peut-être prêter au sourire, mais vous allez devoir répondre le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Stephen, je t'ai vu faire... comme ça, je t'ai vu faire ça. Ouais. Est-ce la chance de sa vie? Pourquoi non?
Pourquoi non? Parce que moi, j'ai envie de te dire que c'est la chance de la vie pour les joueuses et le foot féminin français. D'avoir un coach comme ça, charismatique, humain, qui a déjà gagné des trophées, qui va reconquérir les médias et les suiveurs de l'équipe de France. Ça va enfin faire parler du foot féminin positivement, parce qu'on n'en peut plus des histoires hors terrain. Donc j'ai envie de dire, c'est un don du ciel pour l'équipe de France féminine. Hervé Renard, il vient là dans une équipe qui n'a rien gagné, qui n'a jamais rien gagné. Il arrive, il met les pieds dans un bordel sans nom, où les joueuses, bah pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il y a des joueuses cadres qui ne font plus partie de cette équipe de France féminine. Hervé Renard, c'est un garçon qui, tu vois, cette question-là, c'est typiquement les Français qui ne respectent pas ce qui se fait ailleurs. Ça veut dire que Hervé Renard qui gagne 2 fois la CAN, ça ne nous intéresse pas. Hervé Renard qui bat l'Argentine avec l'Arabie Saoudite, on s'en fout. Ça veut
Pourquoi
dire qu'on dénigre,
Pourquoi tu dis ça ?
Parce qu'on dénigre Mais tout ce qui se fait en dehors de notre pays. On a l'impression que ce qui a été fait ailleurs par Hervé Renard, il vient à l'équipe de France féminine, c'est exceptionnel pour lui, c'est un job en or. Oui, mais... Un job en or, il va diviser par 2 ses émoluments, il prenait 1,2 million. Il prenait 1,2 million avec l'Arabie Saoudite, quand Corinne Diacre prenait 400 000. Donc je me dis, c'est un rapport de 2,5. Mais vous vous rendez compte c'est presque un déclassement pour lui, pour Hervé Renard.
Ah, c'est un déclassement pour Hervé Renard.
Mais parce que je suis sûr qu'il avait d'autres ambitions. Il voulait une sélection, il voulait le Mexique, il était intéressé par la Belgique.
Attends, voilà. Pourquoi il dit oui si c'est un déclassement?
Parce qu'il sait rien d'autre.
Il est à l'Arabie Saoudite. Il est en contrat jusqu'en 2027.
Oui. Mais attends, il a pas encore dit oui. C'est pas encore annoncé.
C'est bien parti pour ce soir.
Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai jamais été autant d'accord avec toi dans une émission. Vraiment, sur ça. Ah ouais, franchement,
tu vas dormir à la maison. Quand tu ranges tes chaussettes.
Alors là, Stéphane, il a tout dit. Je suis désolé. C'est bien une perception auto-centrée, de Franchouillard qui se dit ouais, la Zambie, la Côte d'Ivoire, pas dingo, ça va, c'est l'Afrique. Le mec, il a été 2 fois champion d'Afrique des nations. Effectivement, il a failli emmener l'Arabie Saoudite encore. Il a réussi à nous faire croire que l'Arabie Saoudite était une grande sélection. Tu vois, au premier tour, on était ça joue bien quand même. Ils ont des super joueurs et tout. Bon, sans Renard, évidemment, il se serait fait étrier. Ce qu'il a accompli. Dans son parcours de globe-trotteur, parce qu'évidemment, nous, on adore les poncifs et tout, effectivement, le beau gosse, la chemise, le machin. Mais Stephen a raison de rappeler, quand même, parce que tu le disais aussi, ça se joue entre Gourvennec et Renard. Entre Gourvennec et Renard, il y a quand même un mec qui inspire, je sais pas, dans sa façon de manager, un peu d'autorité. Et Stephen a raison de rappeler qu'il y en a ras-le-bol d'entendre parler de cette équipe de France pour ce qui se passe en dehors du terrain que pour ce qui se passe sur le terrain. L'équipe de France, elle a jamais rien gagné. Et effectivement, je pense que c'est une chance pour le football français féminin, mais que Renard, il doit certainement avoir des propositions. Si jamais il devait quitter l'Arabie Saoudite, je suis sûr qu'il y a beaucoup de sélections qui l'accueilleraient à bras ouverts. Et franchement, je trouve que c'est un manque de respect pour les autres cultures footballistiques et pour ce qu'il a réussi à accomplir.
Je crois que vous comprenez pas forcément très bien la question. Je suis pas d'accord avec vous sur le manque de respect, mais je vais aller voir David Douillet.
T'as signé quoi? T'as signé quoi par là? T'es idiot?
Pas du tout. On a le droit de pas comprendre les questions.
C'est toi-même qui comprends pas ta question.
Moi, je vais lancer David Douillet parce que David, pour lui, ça serait la chance de sa vie. Et pardon, c'est pas une question d'être auto-centré, mais s'il revient sur le devant de la scène en France, ok, ça peut, être un super tremplin pour lui, David Douillet.
C'est bien parce que vous avez tout dit. C'est super. Moi, j'ai dit oui parce que j'ai compris la question.
Merci, David.
Je comprends mes amis parce qu'ils s'enflamment dans leur passion, etc. Et c'est tout à votre honneur, les copains, de vous enflammer dans un vrai beau retour et dans une vraie bonne sélection d'un personnage qui le mérite. Ça a été dit tout à l'heure. Le garçon, je suis sûr qu'il a envie de revenir en France parce que il est en France à travers 2 clubs. Il reste sur un petit goût amer. Il a envie de prouver. Il a prouvé à l'extérieur et brillamment. Donc le fait qu'il ait choisi de revenir, pour lui, c'est un vrai démarrage, c'est un redémarrage, c'est pour moi la chance de sa vie, parce que le drapeau tricolore va être là, l'équipe de France féminine va être là, et comme vous l'avez si bien dit, elle a pas gagné grand chose, et avec lui, compte tenu de sa personnalité, je suis sûr qu'elle va gagner quelque chose, j'en suis certain, et le tremplin naturel, ce serait peut-être d'avoir une énorme réussite chez les filles, et pourquoi pas commencer à lancer une petite musique sur les garçons dans le futur.
Mais c'est vrai, voilà. David, mais cite-moi un sélectionneur de l'équipe de France féminine qui a fini au Barça ou à Manchester United. Aucun sélectionneur de l'équipe de France féminine n'a réussi à se servir de cette fonction.
C'est un déclassement aussi,
parce que on va pas faire le débat du foot masculin et du foot féminin, mais je suis désolé, vous êtes, arrêtez de vivre dans le passé, s'il vous plaît, messieurs. Demain, le foot féminin, j'espère, sera aussi puissant que le foot masculin. Voilà. C'est ça le truc. Arrêtez de faire des comparaisons, de passéistes. Le foot féminin va progresser et progresse et deviendra, j'espère, aussi important que dans le tennis.
Mais par David, excuse-moi, c'est politiquement correct. Je suis désolé, c'est un manque de courage absolu, éditorial, de dire ça dans cette émission. David, si tu m'expliques que tu vas voir les sélectionneurs, les entraîneurs de foot actuels et qu'ils te disent que la sélection française féminine, c'est aussi prestigieux que la sélection française masculine,
c'est grâce à des garçons. Je suis d'accord. Là, t'as raison à date, là. Mais demain, t'auras tort. C'est grâce à des garçons comme Hervé Renard que tu auras tort. Je suis sûr que tu auras tort. Et j'espère que tu auras tort. Parce que pour moi, l'avenir du sport, au global, ça passera à travers les féminines et la femme. Voilà. Et le foot doit être la locomotive pour ça. Et que l'équipe de France, avec toutes les qualités qu'elle a, je parle des joueuses, puisse devenir quelque chose un bijou rayonnant du sport français grâce à de bonnes décisions et pas rester dans l'entre-soi. Parce que ça, on n'en a pas parlé. Parce que ceux qui étaient un petit peu pressentis, c'est rester dans l'entre-soi de la Fédération française de foot, dans la poussiéreuse Fédération française de foot.
On a quand même sondé Thierry Henry, donc c'est pas vraiment de l'entre-soi non plus.
Non, mais au départ, les noms qui sortaient, notamment, on l'entendra, Gérard Prêcheur, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, de la section féminine, on l'entendra dans cette émission parce qu'il n'est pas forcément très content de ce qui se passe actuellement. Marion, on va t'écouter, je voudrais juste vous faire écouter quelque chose, les copains. C'est Hervé Renard qui était l'invité de Rotten sans flamme durant la Coupe du Monde, juste avant la finale de la Coupe du Monde, donc on est mi-décembre 2022. Hervé Renard sur ses ambitions.
J'ai peur de rien, de voyager, de vivre des expériences qui sortent un peu de l'ordinaire en restant dans un aspect compétitif, parce qu'il faut pas aller s'expatrier dans un endroit où on puisse pas gagner. Le but, c'est de vivre des choses exceptionnelles. Quand je pars en Arabie Saoudite, je sais que cette équipe a le potentiel pour se qualifier pour la Coupe du Monde.
Pardon les GG, mais on est en plein dedans. Il va disputer une Coupe du Monde avec les filles et il va disputer les Jeux Olympiques. Ça peut avoir un retentissement hallucinant. Marion Bartoli.
Bien sûr.
Non mais là moi je suis complètement d'accord avec Simon, c'est que tu veux pas aujourd'hui mettre le foot féminin au même niveau que le foot masculin, c'est pas possible.
Ça, oui, okay.
Oui mais d'accord, mais du coup ça fait complètement partie de la réponse si tu veux.
Marion,
il a plus que prouvé en tant que sélectionneur, il a qualifié le Maroc pour la Coupe du Monde en 2018, ça faisait plus de 20 ans que c'était pas qualifié, leur dernière qualif c'était en 98. Hervé Renard c'est un homme d'un tournoi, c'est pour ça que ça a pas fonctionné à Sochaux et à Lille, c'est pas un homme qui va être capable sur une saison complète de te faire tourner une équipe. En revanche c'est quelqu'un, ça me rappelle vraiment un petit peu Yannick Noah, c'est quelqu'un qui peut prendre des hommes et les transcender totalement parce qu'il a le discours, parce qu'il a le charisme, parce qu'il est capable, enfin son discours à la mi-temps contre l'Argentine, je pense qu'il a fait le tour du monde, il est capable vraiment de transcender ses joueurs et de les amener dans un autre niveau et donc avoir des résultats exceptionnels sur un tournoi. Raison pour laquelle je pense que la 3F a décidé d'éventuellement contacter Hervé Renard pour avoir son
très bien, mais tu réponds pas à la question.
Son avis,
c'est un déclassement
ou pas?
Non, mais
pour moi, c'est pas un déclassement.
Non,
pour l'instant.
Pour l'instant, mais tu veux pas le dire.
Pour l'instant, c'est un déclassement parce que tu passes d'une équipe masculine en Arabie Saoudite, on t'a contraint jusqu'en 2027. Il va falloir quand même expliquer comment ils vont faire, parce que là, s'ils veulent avoir Hervé Renard comme sélectionneur, il faut débourser environ 5 millions d'euros. Il était à peu près 1 million d'euros par an, environ, jusqu'en 2027. Donc, il va falloir débourser 5 millions d'euros, puis ensuite lui payer son salaire.
Non, pas lui payer son salaire. Ils ont été rassurés par le salaire que demandait Hervé Renard. Toutes les informations sur rmcsport.fr.
Il faut lui donner son salaire. Il va falloir payer quelque chose à l'Arabie Saoudite pour arriver à faire venir. Donc, il y a un problème financier pour déjà arriver à faire venir. Mais imaginons qu'on arrive à faire venir. OK. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour l'équipe féminine. Ça, c'est certain. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un meneur d'hommes. Il va être capable de vraiment tirer la quintessence de ce groupe et arriver à amener les féminines peut-être éventuellement à gagner quelque chose. Ça, j'y j'y crois fortement. En revanche, pour lui, en termes de carrière, je pense que c'est un déclassement. Parce qu'il rêvait certainement d'une sélection masculine encore plus haute au vu de ses résultats précédents. Et là, de partir en féminine, je pense que c'est vraiment, en plus, comme l'ont dit effectivement Siphon et Simon, et je les rejoins totalement, il a malheureusement un manque de reconnaissance en France qui est certain. Parce que voilà, on aime bien, effectivement, se moquer. Parce que si ça vient pas du sérail français, ben, on se moque. Et donc, du coup, peut-être vouloir prendre cette revanche là-dessus, éventuellement, c'est ce qui pourrait être un détonateur pour le faire venir ici, un déclencheur pour le faire venir en France. Mais je crois vraiment pas qu'en termes de carrière, ça soit un tremplin pour l'amener derrière, entraîner une sélection masculine encore plus haute. Ça, j'y crois vraiment pas.
Il y a beaucoup de noms qui sont sortis, notamment, je le disais, Gérard Prêcheur, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, de la section féminine. C'était d'ailleurs lui qui était le favori quand il y a eu ce putsch des filles.
Il a eu la bonne parole, lui.
Ben oui, parce que c'est un prêcheur. C'est merci beaucoup, Stephen. On va l'écouter justement. Pas très content de ce qui se passe en ce moment à la 3F.
J'ai pas le temps de me poser la question. Franchement, il est évident qu'il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été faites. C'est vrai que c'était une grosse campagne. Hein. Ça me fait penser un peu quand je vois des films sur les campagnes présidentielles et tout. Il y a des trahisons, il y a des coups bas. Je ressens ça comme ça. Mais j'ai pas le temps. Là, j'ai 5 matchs en 15 jours et je sais que même si je devais travailler 24 heures par jour, ça suffirait pas pour les préparer comme je le souhaite les préparer. Donc toute l'énergie que j'ai, c'est pour ces 5 matchs-là.
Fallait changer, fallait.
Ça, c'est très intéressant. Non, mais ça, c'est très intéressant comme déclaration. Parce qu'en plus, t'arrives pas en terrain conquis, hein. Attention. C'est que là, il y a quand même un sacré bordel, hein. Donc, pour arriver à remettre tout ça en route, à faire revenir les joueuses, à créer un groupe cohérent, et elles ont des échéances très rapides, hein. Ça commence avec les matchs amicaux dès le mois d'avril. Donc, celui qui va arriver, ça va pas être un cadeau, hein.
Et en plus, JC, tu me vends les JO. T'as été le premier à me dire que le foot aux JO, c'est peanuts.
Mais pas le foot féminin. Le foot masculin, je suis d'accord. Le foot féminin, non. Au JO, je parle des Jeux Olympiques.
Quand tu parles des JO, JC, tu parles pas de foot en premier. Tu parles pas de foot.
Évidemment, si tu me dis, est-ce que la finale du 100 mètres est beaucoup plus visible Je trouve qu'au niveau des hommes, les JO, c'est peanuts. Quoi qu'on pourra en reparler avec Kylian Mbappé, mais au niveau des femmes, je trouve que c'est une compétition extrêmement importante.
Hervé Renard, moi, s'il avait été sélectionneur des États-Unis chez les filles, c'était exceptionnel. C'est la meilleure nation au monde, ou même l'Allemagne, ou même la Suède. Ouais. Et s'il s'était retrouvé sur un banc de Ligue 1, peut-être que c'était la dernière chance de sa vie sur un banc de Ligue 1 d'une équipe masculine. Mais là, l'équipe de France féminine, il a plus à perdre qu'à gagner.
Ok, Hervé. C'est une régression pour vous. On a bien compris. Est-ce que la FFF s'est un peu acheté une image? Parce que ça aurait pu être quelqu'un du Serac. D'ailleurs, je crois que c'est Marion qui le disait tout à l'heure.
C'est une personnalité connue mondialement, effectivement. Il a l'avantage pour lui, effectivement, de ne pas avoir traîné dans la tambouille du foot français masculin et féminin, mais à ce titre-là, de ne pas avoir été impliqué à aucun moment de sa carrière dans le fameux schisme entre l'Olympique Lyonnais et le PSG, qui continue parfois à diviser un peu le vestiaire des Bleus. Il a cette expérience, il connaît le chemin, effectivement, je pense qu'il va inspirer le respect à l'ensemble du groupe. Et puis JO, Coupe du Monde, quand tu t'appelles Hervé Renard, la moindre des choses qu'on lui demandera, c'est au moins de sortir des poules, quoi.
Et puis, les critères de Jean-Michel Aulas, tu les as vus, il n'a pas arrêté de dire charisme, on veut quelqu'un de charismatique. C'est pas grave s'il connaît pas vraiment le football féminin, parce qu'on pourra lui mettre des adjoints qui eux maîtrisent le foot féminin charismatique. C'est Hervé Renard.
Donc c'est mieux pour le football féminin et pour l'équipe de France que pour Hervé Renard.
On a hâte de voir la doublette Renard.
Exactement. Wendy Renard avec Hervé Renard. Ouais. Exactement. Ah oui, deux Renards dans une même équipe. Et on embrasse évidemment notre patron dans sur RMC, poule. Emmanuel Renard. Voilà, la mafia des Renards.
Comment ça?
J'ai pas entendu.
Deux Renards dans une même poule. Vous avez pas noté? Ça fait 3 fois que je l'ai fait, mais bon, je tente des trucs avec le Stephen.
Moi, au bout de 3 fois, au niveau de la même vanne, moi, je déteste quand on fait des
rubriques. La lourdeur, comme c'est
ça.
Pas ton truc.
Vraiment, c'est un truc, ça me débecte. Il est 10h26. Les copains, je voudrais vous proposer quelque chose, un petit jeu. Sachez qu'à partir de 11h, on parlera du J-500 des Jeux Olympiques. C'était cette semaine. Il y a un sondage Harris Interactive RMC exclusif. Je vais vous dévoiler un chiffre, d'ailleurs, qui est assez hallucinant. C'est 45% des Français qui ne rêvent pas des Jeux Olympiques. Ce sera l'objet de notre bras de fer. Mais il y a également une autre question, c'est quel est votre plus grand souvenir des Jeux Olympiques. Je vous donnerai le classement tout à l'heure autour de 11h20, mais je vous ai posé la question cette semaine, savoir quel était votre plus grand moment des Jeux Olympiques. On va débuter avec toi, David Douillet. Pourquoi as-tu choisi cela? D'abord, on écoute l'extrait. Nous sommes en 96, le 29 juillet 1996, et il se passe ça. Meilleur moment pour David Douillet, je suis très déçu. C'est pas du judo.
Ah, ça y est, Emmanuel Banguet n'est plus en tête du concours olympique. Carl Lewis vient de réussir un exploit auquel il nous habituait depuis des années. Mais maintenant, on pensait peut-être que le King était vieillissant.
Et non, le King a remporté une 9e médaille d'or lors de ces Jeux Olympiques 96 au saut en longueur. Pourquoi tu as choisi ça, David ?
D'une part parce que j'étais dans le stade et j'ai assisté à cette finale. Et ce qui s'est passé avant la sélection de Carl Lewis pour le saut en longueur, c'est qu'il se fait éliminer de ses disciplines de prédilection qui étaient le sprint, 100, 200, etc. Il se fait éliminer dans la sélection nationale américaine. Et donc, ce qui transpire dans la presse à l'époque, c'est un Carl Lewis qui est vieillissant, qui n'est pas qualifié. Je vous rappelle qu'il a 8 médailles d'or à l'époque, avant de gagner cette 9e, et qu'il est là un petit peu claudicloquant, un peu boiteux à ce tournoi de saut à longueur, etc. Et je vois cet immense champion qui est là, qui commence à s'échauffer, qui fait ses courses d'élan préparatrices, et qui est motivé comme jamais. Et je me dis, mais ce type est quand même extraordinaire. Quelle est l'humilité, la dose d'humilité, quelle est l'abnégation, quelle est la force du compétiteur à ce moment-là, alors qu'il a tout gagné, il a tout prouvé. Là, il est au saut à la longueur, il n'est pas sur ses disciplines de prédilection, et il arrive à gagner quand même. Je trouve ça hors du commun. D'autant plus que, et ça m'a fendu le cœur pour lui, les Américains, c'est une des mauvaises habitudes que je n'apprécie pas, crient dans le stade à ce moment-là, il crie pas Lewis, et ça me désole. Il crie USA. Il y a que USA qui les intéresse, la médaille d'or, mais pas l'homme. Alors que l'homme là est en train de nous prouver quelque chose d'immense. Et il gagne ce concours avec brio et sa 9e médaille d'or. J'ai trouvé ça, c'est un moment pour moi extraordinaire.
C'est ton plus grand moment des Jeux Olympiques. Sache qu'il ne fait pas partie du top 5 des Français. Voilà. C'est David Douillet. Vous connaîtrez celui de Marion Bartoli, de Stephen Brun et de Simon Dutin un petit peu plus tard. On se retrouve dans quelques instants. Un homme heureux, la réélection de Gianni Infantino avec Pierre Amiche, à tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h34, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Marion Bartoli, Simon Dutin, Stephen Brun. Dans une dizaine de minutes, restez bien avec nous, c'est le fameux débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre et s'engueuler si possible. Mais tout de suite, comme tous les samedis et dimanches, on fait entrer Pierre Amiche.
RMC. Quand je suis content, je vomis. Je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content. Content, content.
Pierre Amiche.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Pourquoi heureux aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que j'ai connu hier ce qu'on appelle communément une expérience de mort imminente. J'ai pris le train en période de grève. J'ai fait un trajet de 11 heures en prenant 6 moyens de transport différents. Normalement, quand tu fais 11 heures de voyage avec 5 escales, t'es dans Rendez-vous en terrain connu avec Frédéric Lopez. Et là, je devrais m'apprêter à rencontrer les hommes lémuriens dans la jungle de Palombie, à bouffer des cornes de caméléon au miel en chantant Kumbaya à poil. C'est pas juste rentrer chez moi à 3 heures du matin. En même temps, sans regret, parce que je peux pas blairer les caméléons. Et le côté positif, c'est que maintenant, je vis avec l'énergie d'un miraculé. Donc, ça m'a poussé à revoir ma grille binaire simpliste du bien et du pas bien. Par exemple, la réélection de Gianni Infantino à la tête de la FIFA, normalement, je leur ai dit pas bien. Mais le nouveau Amiche, hyper ouvert et déconstruit, il répond on ne sait pas. Il faut creuser, dépasser les premières impressions.
Comme une formalité, Gianni Infantino, seul candidat en lice, est réélu par acclamation au congrès de la FIFA.
Bon, faut creuser, on sait pas. Peut-être que ça n'a rien à voir, qu'au Rwanda, les gens ils étaient contents pour un autre truc, il y avait Infantino sur la scène, c'était pas exprès. C'était pas exprès, Gianni ?
Aujourd'hui, j'ai été réélu après avoir reçu plus de 200 lettres de soutien et une standing ovation. Donc, une majorité écrasante a le sentiment que j'ai fait du bon travail.
Bon, c'est exprès. Mais on sait pas. Peut-être qu'il a dit des trucs de fou, que c'était dingue, qu'il a un programme. D'ailleurs, je sais pas comment on fait, est-ce qu'il a un programme? Comment ça se passe quand t'es tout seul et que t'es réélu à l'applaudimètre? Normalement, moi, j'ai vu ça qu'au camping. Tu vois, pour celle qui a les moins gros genoux, mais bon, y a pas un impact géopolitique majeur. Que ce soit Hervé ou Thierry qui termine Mister Cassoulet, la vie de centaines de travailleurs migrants bascule pas. Alors, comme souvent, Gianni Infantino raconte sa success story, ce conte de fées qui fait qu'il a su triompher des difficultés, jamais rien lâché, malgré une enfance difficile et des soucis capillaires majeur. À Kigali, le patron de la FIFA se confie de nouveau à cœur ouvert, révisionniste qu'il est. Alors Gianni, comment il a été élu? Eh ben, il dit, je me suis posé la question de pourquoi je devais me décourager. La manière dont ce pays s'est relevé, le Rwanda, de cette tragédie, un génocide, devrait tous nous inspirer. J'ai donc poursuivi la campagne et été réélu président de la FIFA quelques mois plus tard. Quel courage! Gianni Infantino a survécu à un génocide comme le Rwanda. Gianni Infantino, l'enfant pauvre des favelas de Berne, ne comprend même pas pourquoi on lui pose des questions pas gentilles, alors que lui, Gianni, est si gentil.
But yet when I read articles, I don't read them, but I'm too...
Mais malgré ça, je lis encore des articles. Enfin, je ne les lis pas, on me le dit. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a toujours ces critiques incessantes contre la FIFA. All the
time. Alors comme ça, Drouet, toi et toute ta clique de fouille crotte, tu continues à sous-entendre que Infantino est pas un saint, qu'il mérite pas d'entrer au Panthéon, qu'il est pas un juste parmi les justes, aux grands hommes, la planète reconnaissante. Hein, on résume quand même, un mec arrivé au pouvoir suite à une immense affaire de corruption à la FIFA, révélée par les médias, réélu parce que le seul candidat acclamé comme un dictateur qui sous-entend qu'organiser la Coupe du Monde en Corée du Nord, oh pourquoi pas, qui tente de se faire sponsoriser la Coupe du Monde féminine en Australie par l'Arabie Saoudite où les femmes n'ont pas le droit légal d'avoir un compte en banque, qui a abusé allègrement son pouvoir pour faire passer les trucs sans les voter, comme la Coupe du Monde des clubs à 32, qui a poussé le Mondial au Qatar et en décembre, qui a pesé de toutes ses forces pour le maintien, en dépit des preuves apportées par des journalistes du monde entier au sujet de la corruption à grande échelle de cette Coupe du Monde, qui claque un selfie devant le cercueil de Pelé, qui compare son destin tantôt à celui d'un travailleur migrant, tantôt à celui d'un pays qui a connu l'un des pires génocides de l'histoire, qui a symboliquement donné la Coupe du Monde à Poutine, qui a son nom cité dans les Panama Papers, les Football Leaks, les suspects de Kennedy, qui a fait passer la Coupe du Monde à 48 équipes afin d'assurer des revenus toujours plus colossaux à la FIFA, tout en se moquant totalement du niveau. Ce mec-là ne comprend pas pourquoi on est méchant avec lui. En fait, il est cinglé. Hein. C'est pas les gens qui sont méchants, c'est toi qui es teubé, comme dans tous les systèmes qui ressemblent à des systèmes mafieux. Le problème, c'est toujours celui qui dénonce, c'est celui qui alerte et qui révèle, c'est jamais celui qui fait des conneries. Pierre Descaves écrivait, la critique, toujours, a eu mauvaise presse, le critique, bonne conscience. La mienne m'interdit de me réjouir qu'un homme avec qui je ne partage aucune valeur ne soit élu. Il n'y a pas un complot anti-Infantino, le gentil organisateur incompris du foot mondial. Il n'y a pas de Gianni bashing, l'ami sympa des pays pauvres et des sans-grades. Infantino n'est pas le symbole de la revanche des petits sur les gros. Infantino, c'est simplement un habile politique, un loup qui fait croire au troupeau qu'il faut voter pour lui parce qu'il est devenu végétarien. Ou plutôt, un caméléon qui change de visage selon celui qui lui parle. Et je vous l'ai dit en début de chronique, je peux pas blairer les caméléons.
Merci beaucoup, Pierre Amiche, pour cet homme heureux, bravo, absolument frère, splendide autour de la réélection de Gianni Infantino. C'est à vous de trancher les GG. Vous êtes heureux ce matin pour cette réélection ou en colère? Pas facile, hein? Simon Dutin.
Ah oui, on est content. Que de quoi pouvait rêver le football mondial?
Ok, c'est pas du tout ironique, je le sens. Marion Bartoli.
Non, je suis un peu en colère quand même.
Ok, David c'est Douillet.
Moi, je suis comme Simon, j'adore les milieux qui se remettent en question, qui sont dans la nouveauté et voilà, pas du tout dans les mêmes habitudes. Tu vois, c'est cette remise en question est formidable, c'est extraordinaire.
Bien sûr, vive le foot. Stéphane Brun.
Ouais, je peux être en colère.
Tu peux être en colère. Simon, je t'ai vu beaucoup réagir à la chronique de Pierre.
Bon, je vais redire ce que Pierrot a dit avec
court, les copains, sur le sujet, il y a de talent.
C'est le cynisme incarné. Infantino, effectivement, exactement, il est arrivé à la tête de la FIFA qui était en ruine, effectivement, parce que Sepp Blatter et ses copains avaient tout saccagé. Faut pas oublier qu'à la base, c'était le copilote de Michel Platini, puis qui lui a savonné la planche. Va demander à Michel Platini ce qu'il pense de, il doit avoir une cible de fléchette, tu vois, ou une poupée vaudou à son effigie. Et non, mais voilà, on compte plus toutes les déclarations. Il était arrivé en disant, lorsqu'il a pris son premier mandat, le football est de retour à la FIFA et la FIFA est de retour dans le foot, ou des conneries comme ça. Toujours des déclarations d'intention, effectivement. Le centre de la lutte anticorruption, évidemment séparer la politique du sport alors qu'il ne fait que ça, s'adresser aux puissants. Pierrot l'a rappelé, l'attribution de la Coupe du Monde à la Russie. Les échanges avec Donald Trump quand il nous promet que le processus d'attribution, de toute façon c'est toujours le plus transparent de l'histoire, celui qui attribue la prochaine Coupe du Monde. Or évidemment on a eu des transcriptions des dialogues qu'il a eu avec Donald Trump. Enfin bon voilà, c'est je te l'ai dit, le cynisme incarné, il manque comme okay, il respire, et je pense qu'il fait pas beaucoup de bien au football mondial.
Très bien, 45 secondes à peu près chacun les copains pour qu'on fasse un joli débat caché. Marion Bartoli,
est-ce que je pourrais...
Vas-y David, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y.
Non mais juste, si je peux me permettre, parce que je, très modestement, j'ai connu les deux milieux, j'ai connu le milieu de la vraie politique et le milieu de la politique sportive. Et malheureusement, je crois que la politique dans le monde du sport, elle est pire que la politique classique. Pourquoi ? Parce que dans la politique classique, il y a quand même des personnages qui ont des convictions profondes, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, dans la politique sportive. Où là, on voit trop souvent des gens qui n'ont que rien à faire du tout des disciplines dans lesquelles ils sont, et ils ne sont là vraiment que pour, à 100%, un intérêt personnel. Et ça, c'est très compliqué. Voilà, c'est tout ce que je voulais indiquer ce matin.
Ok, Marion.
Non, mais moi, son narcissisme m'insupporte au plus haut point. Franchement, arriver à faire un parallèle entre un coup de mou personnel et la résilience post-génocide du peuple rwandais, alors là on arrive... Là, j'ai atteint mes limites. Je peux plus l'écouter, je peux plus l'entendre. Il prend de la transparence, mais il décide absolument de quasiment tout seul. Il méprise toutes les parties prenantes normalement dans des décisions en étant totalement autocratique et en menant d'une main de fer cette FIFA. Il a quand même été capable de déjà préparer le terrain pour rester jusqu'en 2031 en expliquant que son premier mandat de 2016 jusqu'à 2019 avait été incomplet. Donc il est comme un dictateur jusqu'en 2031 installé. Il prend quand même, je vous rappelle son salaire, 3,62 millions d'euros en 2022, un bonus exceptionnel de 1,66 millions d'euros au titre de la Coupe du Monde. Donc là on a atteint, je peux plus. Lui, il est Gianni Infantino là, qui vient nous expliquer qu'il vient des favelas et qu'effectivement il a bien réussi et que le pauvre Bichette, il comprend pas pourquoi on est méchant avec lui. Là, j'y arrive plus. Là, je suis désolé, c'est au bout. Là, on a atteint toutes mes limites.
Ok, le mot de la fin, Stephen.
Oh, moi, je l'aime bien. Hein.
Il est humble.
Bon mec, en soirée, t'as pas une binouse, voilà, généreux.
Non mais pas les oursins dans les poches.
Non, un mec généreux. Mais pour revenir sur ce que disait David sur la politique et le sport, et en politique, il y a des opposants, il y a des gens qui viennent affronter, qui viennent défendre leurs idées. Vrai. Là, il y a personne.
Là, il écrase tout le monde.
Il est tout seul, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un mec qui ait une belle paire de baloches et qui monte quelque chose,
mais un projet. Mais il a construit son hégémonie.
Mais à un moment donné, il faut essayer de la déconstruire. Ou alors, il tombera pour une affaire qui sortira, pour un, je ne sais quoi. Mais je vois pas comment on peut faire tomber ce mec-là, tant il tient le monde du foot par l'oseille.
Ok, les copains.
Je l'aime bien.
Oui, j'ai bien compris.
Quand tu faisais que couvrir les boules lors des tirages au sort, tout le monde adorait Infantino. Hein,
mais exactement. Joueur, et au final, il fait autre chose. Voilà.
Il aurait pu se contenter des boules, quoi.
Parfait, merci Stephen. D'ailleurs Stephen, tu vas garder la main rapidement. Okay. Je le disais, on parlera à partir de 11h du J-500 des Jeux Olympiques. On a posé cette question à nos auditeurs, mais dans un sondage, à un panel, pour savoir quel est le meilleur souvenir des JO. Toi, tu as choisi ce moment, c'était en 2008, et évidemment, c'est du basket. Paul to Bryant. Bryant looking for an opening, gets in, the runner rolls in. Kobe Bryant knocks it down, it's an 8-point game. Well, you see why Kobe Bryant's on this team. Money under pressure. Kobe Bryant took over the game for the United States when the game was cut to 2. That's why he's the MVP of the NBA. And could be walking out of here with a gold medal to add to his 3 NBA championships. Kobe Bryant et les États-Unis remportent la médaille d'or en finale face à l'Espagne. Une finale absolument fantastique. Bon, c'est pas dans le top 5 aussi du
non,
panel que l'on a sondé.
En 2008 à Pékin, c'est pour moi le plus beau match de l'histoire des JO et voire même de l'histoire du basket. Parce que les Ricains ont été battus en 2004 à Athènes. Ils ont la haine, ils ont les boules et ils montent une équipe autour de Kobe Bryant, la Redeem Team, l'équipe de la rédemption pour laver l'affront. Toutes les stars à l'époque sont présentes autour de Kobe. Il y a du LeBron James, il y a du D-Wade. Il y a du Jason Kidd et en face c'est l'Espagne et sa génération dorée également au sommet qui a tout gagné en Europe, Pau Gasol, Navarro, Ricky Rubio et les Américains s'imposent 117-108 dans un match fantastique. C'est un combat de boxe, ils se rendent coup pour coup, les Espagnols ne lâchent rien, sont là jusqu'au bout, tiennent, les Ricains font peur aux Ricains. Et Kobe Bryant, la symbolique, c'est lui qui met le 3 points avec la faute à la fin pour conclure le match. C'est lui le patron. Et voilà, je vous invite à aller voir un documentaire sur Netflix, Redeem Team, qui est fantastique et qui raconte des anecdotes folles sur Kobe Bryant où des mecs de Team USA étaient partis faire la night, rentraient vers 4-5 heures du matin, le porte de l'ascenseur s'ouvre, ils rentrent dans leur chambre, ils voient Kobe Bryant en tenue avec des gants, ils disent mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit moi je m'en muscule les mecs, je m'en muscule. Voilà le message envoyé, c'est moi je suis pas là pour faire la fête, je suis là pour ramener le titre olympique aux Américains et il l'a fait.
Exactement, et c'est ton meilleur moment. Il reste celui de Simon Dutin à découvrir, celui de Marion Bartoli également à partir de 11h. Alain Bernard, champion olympique, sera avec nous dans les GG pour parler de ce sondage. A tout de suite sur RMC, le débat caché dans quelques instants.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h49, toujours avec David Douillet, Marion Bartoli, Stephen Brun, Simon Dutin à partir de 11h. Alain Bernard, champion olympique du 100 mètres en natation, sera notre invité exceptionnel. On parlera de ce sondage des J-500, sondage RMC, Harris Interactif. 45% des Français ne rêvent pas des JO. Il y aura une team, c'est choquant, une team, c'est pas choquant. Mais tout de suite, la nouveauté dans les grandes gueules du sport, c'est l'heure du guet-apens.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir tout vous dire. Pour la première fois à la radio française, le débat caché. Un piège pour vous les GG. Vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. Les grandes gueules du sport se retrouvent donc comme un joueur de Colin Maillard et un funambule. Totalement à l'aveugle et sans filet. Le guet-apens du jour, c'est une première dans l'histoire de cette séquence. Ce n'est pas moi qui vais lancer le débat. Oh non, ce n'est pas moi. C'est une demande spéciale. C'est David Douillet qui a un coup de gueule à passer. David, les GG t'écoutent.
Les Français parlent au français. Alors ça va, tu...
Vous avez entendu, les Français parlent au français. Si je vous dis, son affaire tourne au désastre. Il n'aurait pas le droit à l'erreur. J'avais déjà dit qu'il était surcoté. C'est une question de fin, de confiance en soi et de détermination à arracher les têtes. Ou, si tu veux être un champion, il faut te mettre dans le mal. À votre avis, on parle de quoi, les amis ?
Tony Yoka.
Exactement, et Marion. Et qui ?
Et pas que.
Carlos Takam ?
Non.
Carlos Takam, ouais.
Non, un autre combattant français qui a perdu il y a pas longtemps.
Cyril Gane.
Vas-y David.
Exactement. Je vous ai fait une petite compilation, peut-être un petit peu lourdos, mais c'est un peu le thème de la matinée, sur ce qui se passe depuis des semaines. Et j'ai encore regardé juste avant de prendre l'émission, ça continue et ça continue encore. Les Français parlent ton français. Mais taisez-vous un peu, surtout quand il s'agit de gens qui mettent leurs tripes à nu. Voilà, on a besoin de Tony Yoka, on a besoin de Cyril Gane. Regardez, on en parle dans le monde entier. On a besoin que des Français soient au plus niveau dans certaines disciplines. Et ils ont le droit, parce qu'ils font du haut niveau, parce qu'ils font de la compétition. Ils ont le droit de perdre. Ça fait partie du jeu. Essayez de le comprendre. Je comprends que certaines personnes peuvent être déçues. Moi, le premier. Mais à un moment donné, stop, ça suffit. Arrêtez de tirer sur les ambulances. Arrêtez de nous mettre des balles dans la tête. Je vous assure que c'est pas facile, cette histoire de compétition. Ok, on a le droit d'être critiqué. On va pas se voiler la face. On va pas se cacher. Mais à un moment donné, il faut laisser le temps au temps. Il faut arrêter pour que les gens reprennent de l'air, reprennent de l'oxygène, pour que notre pays ne soit pas en systémique bashing complète tout le temps, et que les gens puissent commencer à respirer pour se reconstruire. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur dans ce pays ? Visiblement, non. Et c'est ça que je voulais soulever ce matin. Il y en a marre. Il y en a marre des critiques trop longues. Il y en a marre des polémiques trop lourdes. Il y en a marre de gens qui n'ont jamais foutu les pieds sur une piste ou sur un tatami ou sur un ring ou sur un terrain de tennis ou sur un parquet et qui passent leur temps à donner des leçons aux autres. Je peux vous assurer que après les Jeux de 2000, lorsque l'ami Marie-Jo ne participe pas à ces Jeux, j'ai entendu des critiques. Ça m'a fait du mal pour elle parce que j'entendais parler certains. Si on leur avait fait faire un 400 mètres, on aurait bien rigolé là aussi. Quand Teddy à Tokyo échoue en individuel et heureusement regagne en équipe, là aussi les canons étaient chargés. Et je peux vous dire que j'enverrais certains en kimono. Rien que le fait de le mettre, il serait ridicule. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de critiquer les sportifs français. Il faut que nos amis comprennent qu'on a besoin de grands champions, même s'ils échouent, on a besoin d'eux pour vivre et que le sport français soit grand.
Ok, David Douillet n'a pas du tout aimé le bashing contre Tony Yoka et Cyril Gane. D'accord ou pas d'accord avec David ? Simon Dutin ?
Pas d'accord.
Stéphane Brun ?
Pas d'accord.
Marion Bartoli ?
Je suis d'accord pour Cyril Gane, je suis pas d'accord pour Tony Yoka.
Ok, Simon Dutin, rapidement les copains, je vous ai vu tous réagir.
Oui, bah écoute, dire, David, je suis désolé, c'est la déception, elle est à la mesure de la façon dont et nous, les médias, entre autres, avons fait monter la sauce. Je suis désolé, on nous a vendu ça comme des événements, effectivement, au retentissement mondial, effectivement, quels n'auraient pas été, effectivement, les réactions et les louanges, les compliments s'ils avaient gagné. Bon, bah, ils ont perdu. Et tu disais, oui, un combattant français a le droit de perdre un combat. Tu aurais dû rajouter, a le droit de perdre à chaque fois son combat. Gane, ça fait deux fois qu'il a une opportunité en or, effectivement, de se hisser sur le toit de l'UFC. Yoka, ça fait deux fois qu'il perd. Bon, je suis désolé, on a eu envie d'y croire. Il y a eu cette espèce de deuxième chance, effectivement. Oui, ce sont des grands champions, mais ce ne sont pas les champions à la dimension universelle qu'on a tenté de construire ces derniers temps.
Ok, Stéphane. Ouais,
moi, je veux rejoindre Simon. À un moment donné, t'as le droit de tomber sur des garçons quand ils t'ont pris pour des pigeons. Quand tu nous vends Cyril Gane qui va taper Jones, après, tu poses deux, trois questions aux spécialistes après le combat, aux mecs passionnés, ils te disent bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de chance pour que Cyril Gane tape Jones. Pareil, Tony Yoka, quand tu
c'est
nous
faux.
Vends... Quand tu... Mais arrête, les plus grands spécialistes de MMA te disent que Jones c'est 10 fois supérieur à Cyril Gane, David. Mais si, mais c'est la
oui, mais
réalité.
Ça, est-ce que c'est le problème du boxeur ou le problème de l'emballement médiatique mais de tout ce qu'il y a autour?
Oui, mais c'est l'emballement médiatique et c'est le fait qu'ils ont créé des attentes. Et Tony Yoka, c'est l'emballement médiatique, mais lui aussi, il nous a vendu des choses. Tony Yoka, lui aussi, il a été d'accord. Je suis désolé, son histoire de conquête, de devenir champion du monde, il a donné son aval par là-dessus. Donc, et puis Tony Yoka, il est tombé contre Bacolé, son premier combat où il était attendu, parce qu'avant, il a combattu des pimpins, et qu'on m'explique que ça fait partie du processus, il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'on ne va pas combattre les meilleurs, il n'y a aucun problème. Mais par contre, la première fois où il était attendu face à Bacolé, tu te fais détruire, tu disparais, très bien, tu nous vends la rédemption, je me suis mis au travail, on t'attend au tournant, tu te refais taper par Carlos Takam, je suis désolé, ces mecs-là sont censés, on nous a vendu ça comme des futurs champions, mais peut-être qu'il y a eu de la pénurie aussi sur ces sports-là, et on a été peut-être trop exigeants, mais on a le droit aussi de dire que bah, Tony Yoka, il y a escroquerie sur la marchandise.
Ok, les copains.
Personne n'avait le droit de les critiquer. J'ai pas dit ça. Je parle de la longueur de la critique.
Ah oui,
à un moment donné, ça va. Je parle de ça. Mais non, mais je parle. Attends, c'est comme ça que j'ai démarré mon explication. C'est trop long. On en remet tout le temps. Le bashing, à un moment donné, ça suffit quoi. Faut avoir du courage pour monter sur un ring. Un duel, c'est quelque chose d'extrêmement dur mentalement. Et c'est pas simple. Donc toutes celles et ceux qui continuent à faire des critiques, quelles qu'elles soient, de quelque ordre que ce soit, à un moment donné, qu'elles se disent, ok, oui, d'accord, ils ont vendu, ils peuvent être critiquables. Bien sûr, j'ai pas dit le contraire, mais il faut respecter les gens à un moment donné. La durée de la critique, c'est un manque de respect, je trouve.
On en reparle à 11h40 et Marion, tu pourras répondre à David Douillet, c'est promis. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport, le bras de fer des GG autour de ce sondage RMC exclusif. 45% des Français ne rêvent pas des JO 2024. Choquant ou pas choquant, Alain Bernard sera avec nous. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.